peut plus rien dire. Ma tête tourne, 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 tourne comme une bête enfermée. Je suis folle alliée. Maudite société, n'as-tu rien d'autre à nous offrir que les mots et les images de ta télé? N'as-tu jamais entendu dans cette jaune, le jour, le jour, le jour, les cris et les plaintes des forces à modèle? À quoi vont crier dans cet univers déshumanisé? Les murs et les portes n'auront plus d'oreilles. La souffrance et le supplice sont vraiment double, 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 double. Quand pour pouvoir cantiner, je dois boulonner. Mais quel est le goût de votre prétendue liberté? Celle qui tous les jours vous envoie bosser. Il arrivera le jour de la belle, 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 où je démolirai vos pauvres et barons.
Bruit de tôle, une émission qui veut agir pour la suppression des prisons et pour la remise en cause du principe de punition et de contrôle. Nous voulons nous attaquer aux murs plus ou moins visibles des institutions qui diffusent l'enfermement et la soumission dans tous les plis de la société comme la famille, l'école, l'hôpital, les maisons de retraite, celles de la culture et bien d'autres. Le système judiciaire resserre l'étau sur les pauvres et les insoumis, les classes dangereuses en somme. Il enferme de plus en plus tôt sous prétexte de délinquance juvénile, de plus en plus souvent en allongeant la liste des délits et pour des peines de plus en plus longues. Et malgré une croyance tenace qui veut que la prison soit toujours réservée aux autres, la menace permanente qu'elle laisse planer sur l'ensemble de la population entretient la peur et la soumission. Longtemps tabou, la prison est devenue un sujet médiatique à la mode pour spécialistes de toutes sortes, sociologues, médecins, criminologues, politiques, occultant toujours la parole des personnes enfermées. Bruit de tôle se veut un espace de réflexion sur les enfermements, un lien entre l'extérieur et l'intérieur des murs. Ce que nous voulons, c'est mettre en évidence les rouages d'un ordre social qui prétend gérer nos vies, nous soumettre à l'État, et désamorcer, assimiler, digérer, récupérer toute déviation, colère ou révolte. Nous rêvons d'une société sans maître ni esclave, sans coupable ni victime, sans juge ni condamné.
Vous écoutez Bruit de tôle sur Canal Sud 92.2. Ce soir, nous reviendrons sur l'histoire d'Hélène Castel, dont l'extradition du Mexique avait défrayé la chronique en 2004. Nous vous présenterons également le film « Faites sortir l'accusé ». Puis nous vous parlerons de mouvements de prisonniers à Moulin-Isère et Orléans et de l'enfermement de mineurs étrangers. Alors, si vous voulez nous passer un petit coup de fil, vous pouvez nous appeler au 05 61 53 36 95, de préférence pendant les pauses musicales, et en voici une tout de suite d'ailleurs.
Rien ni personne ne pourra étouffer une révolte. Tu as semé la graine de la haine, donc tu la récoltes. Les rebelles et les rebuts ont tous opté pour le boycott. Faisons en sorte que les aisés nous lèchent les bottes. Traînons plus bas que terre, ceux qui nous l'ont déjà fait. Prendre le mal par le mal n'est pas bon en effet. Mais la rage
et la frustration
empêchent
à la réflexion.
Est-ce Dieu ou le diable qui guide toutes nos actions? Sache que derrière nous il y a Beauval ainsi que les Lilettes. Tous les départements du 01 au 77. J'ai accompagné de 10 à côté de mystiques réagissent.
Notre tendance à l'extrémisme est poussée par le lust de la justice.
Strictement
hardcore.
La jeunesse est désespérée, elle est
hardcore.
Et rien ne pourra l'arrêter.
Quand il arrive, nous serons aussi nous défendre.
Car tu ne te doutes que tout vient à point à qui c'est à tort.
La sédition est la solution.
Révolution.
Multiplions les manifestations.
Passons à l'action.
La sédition est la solution.
Révolution.
Multiplions les manifestations.
Attendez guénant.
L'explosion de toutes les cités approche. D'abord des gens fâchés qui n'ont pas la langue
dans la poche.
Faisant partie d'un parti d'avant-garde guidé par deux principes visant à renverser la société.
Juste
pour le plaisir, je répète,
ma cité va craquer.
Une révolution complète. Je prends plaisir au vacarme, au fracas des vitres quand tout crame.
Les cris des jeunes
deviennent des armes, qui désarment. Dans
relève le gant, quand tu le faut deviens brigand.
Cramer le système est mon slogan.
Les chétans fusionnent avec les deux banigas.
On additionne les forces pour faire face
à la menace de l'état bourgeois.
La lutte des classes
dans la masse, tu sens l'angoisse.
trop très vite, petit poulet.
Trash, le chacal de Beauval à l'envie de ta face. Il faut lutter, affûter pour faire chuter le combat.
La sédition est la solution.
Révolution,
multiplions les manifestations.
Passons à l'action.
La sédition est la solution.
Révolution,
multiplions les manifestations.
Disette liqueur, ma milice est en sueur. Forcé de bouger sur le but indiqué par ailleurs. J'ai fleur,
une folie meurtrière.
Jusqu'à ce que Babylone prenne peur. Ma peur d'y perdre la peau, fait pour dérailler les inspecteurs. Regarde en droit devant moi, élaborant mon phrasé de guerre.
Préparez le cimetière,
mais tu verras en enfer.
Ouvre la porte de la guerre civile et rentre avec fierté.
Car les droits de l'homme sont laissés à la porte d'entrée à jamais.
Sachez que ma rage est loin d'être passagère.
Passe au commando numéro 3,
explique ce que tu comptes faire. Car lorsque des chiens mordent mes frères, ces derniers sont en droit de les abattre.
Donc je check la muselière.
Celui qui s'en tire n'est pas le flambeur, mais celui qui a des tripes. Donc pour une fois, soyons à la hauteur de nos lyrics. Du sang à 300% pour Géchant, la vision du champ.
Dorénavant,
et dès maintenant, à toi de choisir
la sédition est la solution.
Révolution,
multiplions les manifestations.
Passons à l'action.
La sédition est la solution.
Révolution,
multiplions les manifestations.
Attendez,
la sédition est la solution.
Révolution,
multiplions les manifestations.
Passons à l'action.
La sédition est la solution.
Révolution,
multiplions les manifestations.
Attends,
la sédition est la solution.
Révolution,
multiplions les manifestations.
Passons à l'action.
La sédition est...
Voilà, de retour dans midi au... Non, dans midi au mitard. J'allais dire midi au mitard parce que je pensais à l'émission justement qu'on va diffuser, enfin en tout cas l'interview qu'on va diffuser qui avait été réalisée par cette émission à Nantes en 2012. Et justement, c'est une interview de Hélène Castel. Hélène Castel, en fait, elle avait participé en 1980 à une attaque à main armée et une prise d'otage dans une agence de la BNP rue Lafayette à Paris. Et en fait, au cours du braquage, donc un des braqueurs a trouvé la mort et le directeur de l'agence bancaire avait été blessé. Hélène Castel, qui avait réussi à s'enfuir, je crois d'ailleurs la seule du groupe de braqueurs qui avait réussi à s'enfuir, est partie. Elle s'est exilée aux États-Unis puis au Mexique en 82. En 84, elle est jugée par la cour d'assises de Paris par contumace et elle est condamnée à perpétuité. Et au Mexique, elle change d'identité, elle élève sa fille et elle devient psychothérapeute. En mai 2004, donc 24 ans après les faits, et 3 jours avant la prescription de sa peine, elle est arrêtée, elle passe 3 mois en prison au Mexique et puis elle est extradée vers la France. Elle passe 11 mois à Fleury-Mérogis et elle obtient un nouveau procès aux assises où elle est condamnée à 2 ans de prison avec sursis. Donc du coup, elle aura fait presque 14-15 mois de prison en tout, alors qu'elle était condamnée finalement à du sursis. Donc en 2009, elle a publié un bouquin qui s'appelle « Retour d'exil d'une femme recherchée », dans lequel elle raconte son parcours, sa manière de vivre l'univers carcéral en tant que détenue particulièrement surveillée et en tant que femme justement.
Donc cet univers carcéral, vous le découvrez au Mexique dans une prison dans lequel il me semble il y a 200 femmes pour 40 places, c'est ça ?
Oui, effectivement. C'était la première prison dans laquelle j'étais, qui était en fait une maison d'arrêt, était très vétuste.
D'accord, vous parlez d'ailleurs de cages et non de cellules, avec des conditions de détention particulièrement difficiles. Est-ce que vous pourriez nous en dire davantage sur ces conditions de vie ?
Oui, oui, volontiers. Ce qui se passe, c'est quand on arrive en prison au Mexique, on est tout de suite happé par le collectif, parce qu'il y a une vie collective, les portes des cellules sont ouvertes toute la journée, de 8h du matin à 9h30 du soir. Et donc, dans ce cas-ci, j'étais vraiment dans un espace assez réduit où nous étions très nombreuses, et finalement, c'est l'organisation de cette vie collective qui est parfois problématique et parfois plutôt un soutien qu'autre chose. Je pense d'ailleurs qu'au Mexique, il y a sûrement beaucoup moins de suicides en prison qu'il y en a en France, parce que ce collectif, même s'il peut poser problème, il y a quelquefois des rapports de force un peu compliqués, il est quand même vivant, il est quand même humain, et il y a aussi toute cette solidarité nécessaire dans des situations d'urgence comme ça qui peut se mettre en place.
Et d'ailleurs, vous parlez aussi de solidarité avec des associations, puisque la prison mexicaine dans laquelle vous étiez est largement ouverte aux associations. Et vous dites également que l'administration pénitentiaire met en place différents moyens pour maintenir les liens affectifs. Alors il y a un passage où vous racontez qu'il y a des quarts entiers de femmes et d'enfants qu'on emmène régulièrement vers les prisons d'hommes et que du coup on aimerait bien partager avec les auditeurs ce passage du livre qui a particulièrement retenu notre attention.
Pourtant, elle n'est pas riche, l'administration pénitentiaire. Mais il ne viendrait à l'esprit de personne de supprimer les rencontres des couples prévues une fois par semaine. Des cellules sont aménagées pour la nécessité régulière, impérieuse des ménages. Se retrouver, se toucher, parler des problèmes, discorde, accrochage, se structurer ensemble au sein de l'adversité. 24 heures de répit pour ces petites familles, tant si les deux membres du couple sont pris dans les filets, captifs, que s'il n'y en a qu'un qui s'est fait écrouer. Dans ce cas, si l'homme ne l'abandonne pas, il vient auprès de sa compagne, sa femme, sa concubine, et se laisse enfermer avec elle un jour et une nuit, de midi à midi. Oui, que de mouvements, de quarts, d'ajustements, que de dérangements pour permettre qu'ait lieu de telles retrouvailles. Allégresse, déception, engueulade, union. Sans compter les enfants conçus lors de ces rencontres, les grossesses, les soins lourds, suivis de l'accouchement, espaces aménagés, services de pédiatrie. Toute la féminité, toute la maternité en prison déployée. Plus fort que la discipline, l'ordre, la paranoïa, c'est l'appel de la chair, le respect des coutumes et des structures basiques de survie collective qui s'imposent ici, même dans l'enfermement. La vie, tout simplement.
Alors, est-ce que ce type d'initiative est complètement inimaginable pour l'administration pénitentiaire française ?
Nous avons déjà des unités de vie familiale, par exemple. Dans la centrale de Rennes, il y a des espaces prévus pour certaines détenues qui ont un comportement plutôt sans reproche, on va dire. Elles peuvent, de manière plus ou moins régulière, recevoir une personne ou deux dans une sorte de petit appartement prévu pour qu'elles puissent passer plusieurs jours. C'est relativement exceptionnel encore maintenant. Il semble que dans les nouvelles prisons, qui pourtant, il y aurait beaucoup à dire sur le côté déshumanisant des nouvelles prisons qui réduisent beaucoup les mouvements et les contacts humains, mais en tout cas, il semble qu'il est prévu aussi de construire des unités de vie familiale, mais c'est relativement récent.
D'accord. Mais vous dites dans votre livre que sur certains aspects, le Mexique, vous dites, alors je vais lire, ça sera peut-être plus simple, est-il si étonnant pourtant qu'un pays émergent soit plus en avance sur certains points que nous en termes de respect effectif des droits de l'homme ? Est-ce que vous pourriez expliquer ça ? Parce qu'il me semble que quand vous arrivez à Paris, donc à Fleury-Mérogis, vous êtes considéré comme une détenue particulièrement surveillée, donc vous êtes en encellulement individuel.
Oui.
Et justement, il y a peu de contacts. Donc, est-ce que l'incarcération a été plus violente finalement à Paris qu'elle ne l'a été au Mexique ?
Je voudrais bien faire un petit retour sur les prisons mexicaines, parce que c'est vrai qu'il y a plusieurs éléments quand même très importants pour ne pas être aussi perdu qu'on peut l'être en France quand on est incarcéré. L'un d'eux, c'est qu'on a accès au téléphone tout de suite, de manière illimitée. Même si on est prévenu, même si on n'a pas encore été jugé, il y a les cabines téléphoniques et ça dépend en fait de la possibilité d'avoir une carte téléphonique pour pouvoir appeler, mais on peut appeler où on veut et quand on veut. Et ça change quand même la vie. Dès qu'on est incarcéré, on est en contact avec nos êtres chers. Alors que quand j'ai été incarcérée à Fleury-Mérogis, il a fallu que se passe un mois pour que je puisse avoir ma première visite. Et il n'y avait absolument pas de contact par téléphone possible. Il y avait seulement les avocats qui pouvaient venir. Et tout le monde n'a pas un avocat qui peut venir immédiatement une fois qu'on est incarcéré. Donc ça veut dire que pendant un mois, on est absolument coupé de tout. Et y compris les visites en France dépendent de l'accord du juge d'instruction, etc. Alors qu'au Mexique, on inscrit les personnes qu'on souhaite pouvoir voir sur une liste et a priori il est très rare qu'il puisse y avoir une contre-indication. Donc ce rapport avec l'extérieur est vraiment extrêmement protégé, même au tout début de l'incarcération. Et puis ce dont vous parliez, de ces personnes de la société civile, en fait il y a de manière permanente, du matin au soir, deux personnes dans la première petite maison d'arrêt dans laquelle j'étais, et beaucoup plus parce que après ça j'ai passé un mois dans une maison pour peine. Il y a plusieurs personnes d'une association qui sont présentes, qui sont là pour vérifier que les droits des personnes détenues et de leurs familles au moment des visites sont respectés, qui sont là aussi pour vérifier qu'au moment des fouilles ou au moment des transferts, il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de problème, et qui sont aussi là pour donner leur soutien aux personnes qui ne savent pas trop lire, qui ont besoin de faire une lettre, qui ont besoin de contacter un avocat ou d'avoir des soins médicaux. Elles sont là en permanence pour pouvoir vérifier comment les choses se passent et pour pouvoir soutenir les personnes détenues. Et ça, c'est énorme comme différence aussi. Donc, c'est vrai que quand on arrive en France, on est non seulement dans un encellulement permanent, qu'on soit seul ou à deux ou trois, de toute façon, on est derrière une porte fermée toute la journée, sauf pour se rendre à telle ou telle activité ou au parloir, mais à part ça, ou à la promenade. Mais à part ça, on est tout le temps enfermé, ce qui fait qu'on passe 20 heures sur 24 minimum derrière une porte dans 9 mètres carrés.
D'accord. Et cette différence, est-ce que vous l'expliquez peut-être par, on va dire, une espèce d'omnibus, enfin de, par exemple, pour l'administration pénitentiaire qui française, qui a vraiment une, on va dire, une phobie, je sais pas, de l'évasion, ou qui est vraiment, qui est très proche de tout ce qui est sécurité ou gestion des populations. Alors, pourquoi nous, en France, on a du mal à ouvrir les portes des prisons? Pourquoi les... Est-ce que, par rapport à ce que vous avez connu au Mexique, est-ce que vous pourriez... vous avez une idée de...
C'est difficile de donner des causes comme ça. Je pense qu'il faudrait réfléchir un peu à comment ont évolué les choses depuis des siècles. En fait, quand on est... Il s'agit moins d'ouvrir les portes des prisons que des cellules. Mais quand on est en condamné déjà et qu'on est en maison pour peine... En centre pour peine, dans la plupart des centres pour peine, les portes sont ouvertes pendant la journée. Et ce qui est étonnant, c'est que les personnes qui attendent leur jugement, c'est-à-dire celles qui sont normalement bénéficiaires de la présomption d'innocence et qui n'ont pas donc une peine prouvée, qui n'ont pas leur culpabilité prouvée et une peine prononcée, ce sont elles qui vivent le régime d'incarcération le plus sévère quand même, parce que c'est en maison d'arrêt surtout que les portes sont fermées toute la journée.
Alors il y a également un sujet que vous développez pendant tout le long de votre livre, c'est la question de la violence en prison, donc la violence qu'elle soit institutionnelle, officielle, officieuse, la violence entre les détenus mais également entre les détenus et le personnel. Alors comment on peut justement résister à cette violence-là? Comment... voilà, parce que vous dites à un moment, c'est une phrase qui est très forte, qu'on est obligé de répondre à la violence par de la violence et qu'on croit sauver sa peau sans même réaliser que l'on resserre les taux de la coercition.
Mais en fait, oui, c'est assez paradoxal parce que quand on est en prison, on est normalement condamné par la société parce qu'on a enfreint les règles du vivre ensemble finalement. Et c'est vrai que pas mal de personnes qui sont condamnées peuvent avoir des comportements qui sont relativement agressifs ou irrespectueux, et c'est sans doute aussi parce qu'elles ont vécu d'une manière ou d'une autre des situations, que ce soit de la part des institutions qu'elles ont croisées sur leur chemin ou des personnes qui étaient liées à de la violence. Donc il y a une certaine forme de violence qui existe dans les relations entre les personnes détenues. Mais ce qui est très paradoxal, c'est que la société qui les condamne ne leur offre pas au moins un espace qui est l'espace de l'incarcération où elles pourraient réapprendre une autre manière de vivre ensemble. Et les droits pour lesquels on est condamné, le fait d'avoir pas respecté certains droits, finalement ne sont pas non plus respectés par l'institution qui nous fait payer le fait qu'on n'ait pas respecté ses droits collectifs. Et effectivement, il n'y a pas du tout d'espace de réflexion et d'action qui permettent de repenser les choses autrement dans un moment qui peut durer des mois ou des années où on est obligé de vivre ensemble en détention. Et ça, c'est assez paradoxal parce que du coup, on est incarcéré dans des situations quand même qui sont extrêmement limitées, réductrices, où on a le choix pratiquement de rien. Sauf si on a un peu d'argent, de cantiner ce qu'on veut cantiner, et puis éventuellement d'essayer de tisser des liens de solidarité entre personnes détenues. Mais c'est un choix très limité parce que si on est enfermé 20 heures sur 24 au moins, on a quand même très peu de possibilités de tisser ces liens solidaires et constructifs dont on aurait bien besoin de façon soutenue. Et c'est plutôt mal vu d'ailleurs par l'administration pénitentiaire parce qu'elle a effectivement un regard qui voit les choses en termes de dangerosité et de risque plus qu'en termes de nécessité humaine de se retrouver parmi des pères et de pouvoir construire quelque chose pour que ce temps de détention ait du sens, quoi.
D'accord, et justement, cette solidarité, vous en parlez dans votre livre, puisque vous dénoncez une injustice qui existe dans la machine judiciaire et carcérale, c'est la maîtrise du verbe et la capacité à la personne jugée à se faire entendre. Et donc, Nancy Huston, qui a écrit la préface de votre livre, vous décrit comme une merveilleuse erreur, parce que vous disposez de mots, vous avez pu faire entendre votre parole, et également porter celle des autres en prison en devenant une écrivain publique pour les requêtes de vos codétenus. Et dans ce contexte, vous rencontrez une jeune femme qui s'appelle Shakira. Et justement, vous lui dédiez un chapitre dans lequel vous parlez des liens de solidarité que vous avez tissés avec cette personne-là. Donc on voulait lire un petit extrait.
Le choc de sa propre violence, le deuil de l'être jadis aimé, la honte sans borne, la séparation d'avec son enfant, l'univers de la prison, le bannissement. Cette jeune femme douce, maternelle, effarouchée, depuis 2 ans, muette, paralysée. Pour la première fois, sans doute, elle raconte sa vie, dans cet espace d'écoute qui s'installe entre nous. Lors de nos promenades, nous y consacrons 1 heure de temps en temps. J'assiste, impressionné, à l'émergence de la conscience qui s'organise pour que son expérience acquiert un peu plus de sens, de cohérence.
Donc voilà pour... vous avez donc tisser des liens avec cette personne-là, l'aider justement à mettre des mots sur son histoire. Et une fois sortie, vous avez créé une association qui s'appelle donc La Parole est à l'accusé. Est-ce que vous pourriez justement expliquer aux auditeurs en quoi celle-ci consiste et pourquoi vous avez créé cette association ?
Oui, bien sûr. L'idée en est venue après ces heures de promenade que quelquefois je passais avec des personnes en me rendant compte qu'elles étaient vraiment dans un désarroi profond, surtout à l'idée de comparaître. C'est pas simple de parler de soi, et surtout quand on a des juges en face de soi ou un psychiatre expert qui nous évalue. C'est difficile de prendre la parole et de pouvoir mettre un peu d'ordre dans ce qu'on a vécu, de sens, surtout quand on est dans cet espace un peu déstructurant de la prison. Et donc l'association est créée pour donner un accompagnement, disons un parloir par semaine, pendant 3 mois, disons, ou éventuellement 6 mois, pour chaque personne qu'il souhaite, pour qu'elle puisse commencer à démêler un petit peu toutes ces choses qui sont liées à ce pourquoi elle est accusée, mais aussi simplement à pouvoir expliquer qui elle est et comment a été son parcours de vie, quoi. En ce qui me concerne, j'ai eu un procès qui a duré 3 jours, un procès en assises, et c'est vrai que le fait que j'ai beaucoup travaillé à essayer de préparer cette défense et d'être suffisamment sereine avec ce qui s'était passé dans ma vie pour pouvoir en parler et pour pouvoir le faire comprendre, ça a quand même beaucoup joué pour que les gens qui devaient me juger et qui m'écoutaient ne me prennent pas pour quelqu'un d'autre que qui je suis, ou en tout cas le moins possible. Et c'est étonnant parce que nous avons un code pénal et nous avons une justice qui est censée prendre en compte la parole de la personne détenue. au moment des interrogatoires face au juge d'instruction et au moment du procès, mais il n'y a rien qui soit mis en place pour lui donner les moyens d'honorer cette parole.
D'accord.
Et c'est ça que l'association La Parole est à l'accusé se propose de faire. Souvent on dit mais c'est l'avocat qui défend la personne détenue, mais on ne réfléchit pas au fait que de toute façon tous les yeux sont posés sur la personne qui est jugée. Les quelques mots qu'elle peut prononcer seront d'un poids énorme, parce qu'on sait très bien que l'avocat c'est une personne qui a cette éloquence et cette maîtrise de la parole et qui aura travaillé sans doute sur le dossier qui lui aura été présenté de la personne qui va être jugée. Quelquefois, il y a très très peu de contact entre l'avocat et la personne. Et de toute façon, souvent les avocats disent d'ailleurs, mon souhait le plus fort, c'est que mon client ne parle absolument pas pendant le procès, parce qu'il va tout ficher en l'air, quoi. Mmh. Et c'est vrai que c'est un travail qui pourrait être beaucoup plus constructif déjà pour la personne. Et puis si elle se sent entendue, elle sera capable d'écouter aussi plus facilement qui elle a en face et de se rendre compte davantage des enjeux de tout ce qui se passe. Si elle ne peut pas être entendue et si elle est complètement paralysée, que ce soit d'ailleurs, parce que la réaction à ça, ça peut être du côté de l'agressivité comme du côté de la dépression. D'ailleurs, en prison, on a... La majorité des personnes sont soit d'un côté, soit de l'autre, face à l'impossibilité d'exister et d'être reconnue comme une personne dans sa totalité, on a tendance à aller soit d'un côté, soit de l'autre. Et ces deux côtés-là, que ce soit l'abattement ou l'agressivité, au moment du procès, ça ne va pas servir à grand-chose, c'est moins qu'on puisse dire.
Sans compter que le jour du procès, c'est ce que vous expliquez, ce ne sont plus... pas réellement des faits que l'on juge, mais bien une personne, et qui a toute une défense. Alors soit on a mis trop de distance, et dans ce cas-là on est perçu comme froid, soit on est trop dans l'émotionnel, mais les juges considèrent qu'on n'a pas la maîtrise de soi. Donc dans les deux camps, il y a une certaine position à trouver, et c'est ce que vous essayez de faire avec les personnes que vous rencontrez. Voilà. Alors, juste pour finir, j'aimerais bien qu'on relise un dernier passage que moi j'aime beaucoup et qui explique, je trouve, très justement le travail que vous mettez en place dans cette association-là. Ce sera le dernier extrait, puis on entendra à la fin de l'émission d'autres extraits de votre livre qui, je le rappelle, s'appelle « Retour d'exil d'une femme recherchée » aux éditions Le Seuil, qu'on n'a pas encore précisé.
Alors oui, j'ai sauvé ma peau. Mais ma jouissance de cette liberté est entachée par l'impuissance de ceux qui restent derrière les murs sans même avoir pu parler. J'imagine leur vie gâchée, leur difficulté pour nager à contre-courant en cherchant à construire, à se reconstruire, après une telle désillusion. N'est-ce pas pourtant, comme le dit Maître Leclerc, la fonction de la justice de ramener la famille humaine, ramener dans la famille humaine ceux qui en sont exclus ?
Problem. You're gone, you're gone, you're gone. coffee power and peel out themselves. Judah will be restored, daughters of Zion not ignore. We not doubt and question no more.
Parler du film Faites sortir l'accusé, donc qui n'est pas encore sorti puisque ce film n'est pas encore fini, et donc son réalisateur Pierrot Guérinet fait un appel à coproduction. En gros, vous donnez de l'argent, vous devenez coproducteur et vous participez à la sortie de ce film. Et donc il explique comme ainsi son projet. Philippe Lallouel et moi, nous nous écrivons depuis 5 ans. Moi de dehors, lui du fond d'une prison centrale, pour prisonniers condamnés à de longues peines. De correspondants, nous sommes devenus amis. Cet ami est entré en prison pour la première fois en 1987. Cette année, il fête sa 28e année de prison pour des vols. Entre un énième procès en assises fin 2012 et l'appel en janvier 2014, nous avons décidé de faire un film. Un film qui, partant de sa vie sous écrou, dévoile une partie de l'implacable machine judiciaire. En 1987, Philippe Lallouel a 19 ans. Il vole des voitures, puis finit par braquer une banque. Contaminé par le VIH lors d'une transfusion sanguine après son arrestation, il se pense condamné. Comme il ne veut pas mourir en prison, il s'évade deux fois au début des années 90. Pour ses vols et pour ses quelques mois de liberté volée, il fera 23 ans de prison. En 2009, à 40 ans passés, Philippe est brusquement relâché sous le régime de la libération conditionnelle. Assigné à résidence dans un village du sud-ouest, il travaille pour un petit patron qui ne le paye pas. Il tient 4 mois. 4 mois de solitude et de rage contenue qu'il consigne jour après jour dans un journal. Il ne veut pas y retourner. Sans le sou, il finit par voler de l'argent dans des bureaux de poste. Des sommes dérisoires, sans violence. Mais Philippe est récidiviste. En décembre 2012, la cour d'assises de Toulouse le condamne donc à une peine d'élimination sociale, 20 ans. Philippe, sa compagne et quelques amis n'acceptent pas cette peine et décident de se battre en faisant appel. Un an plus tard, les jurés de la cour d'appel de Montauban ne le condamnent qu'à 17 ans. La politesse des bourreaux. Comment la justice a-t-elle fait d'un petit voleur de 19 ans qui n'a jamais tué personne, un prisonnier à vie? Dans quelle machinerie les jurés sont-ils pris? Par quel enchantement du droit se retrouve-t-on à condamner à la mort lente pour des vols? Dans le film, nous suivons Monique, boulangère à Pau et compagne de Philippe depuis 4 ans. Elle ne le lâche pas, malgré son étrangeté au monde des prisons, malgré les transferts à répétition, malgré l'attente toujours reconduite. Nous écoutons Delphine Beuzel, avocate de combat et spécialiste du droit de la peine, nous observons victimes et jurés. On mobilise le traumatisme des unes pour garantir la peine, on mobilise le conformisme des autres pour administrer une sentence déjà écrite. Nous découvrons l'histoire du petit peuple des centrales, ses milliers de longues peines éliminées. Tout au long du récit, nous entendons Philippe qui refuse d'être un fantôme. Nous écoutons son journal. Nous éprouvons le temps qui ne passe pas. Nous devinons la prison, toujours située aux confins de la ville, aux abords d'une zone commerciale ou d'une campagne désolée. Philippe reconnaît avoir volé, mais ne comprendra jamais que la justice exploite éternellement quelques délits mineurs pour s'innocenter. Il ne touche jamais le fond du repentir et garde ainsi l'énergie de se battre contre le sort qui lui est fait. D'un procès à l'autre, Philippe rencontre la solidarité de quelques personnes qui refusent son élimination sociale. Tous regagnent de la dignité à travers l'amitié et la confrontation. Un film en lutte, désespéré, mais pas résigné. Et donc on va tout de suite écouter le teaser du film pour vous donner encore plus envie de participer à la croupe production.
Il y a un an, un jury populaire condamnait Philippe, mon pote, à 17 ans de prison pour 3 vols dans des banques. Butin, 22 000 euros. Le 31 janvier 2014, au moment de la sentence à la cour d'assises de Montauban, il avait déjà passé 28 ans en prison, dont 12 années à l'isolement. Avec Philippe et Monique, sa compagne, on a donc décidé de faire un film pour comprendre comment une société fait d'un petit voleur un prisonnier à perpétuité.
Je m'appelle Philippe Lanouel. Actuellement, je suis à Réau, là, dans un tombeau, c'est un QHS. Ça fait 27 ans aujourd'hui que je suis en prison. J'ai fini ma peine en 2019. Et je repars sur 17 ans et à voir combien je vais faire. J'ai pas envie de mourir en prison, donc voilà. J'espère qu'il y a des gens qui m'entendent. La prison, en fait, c'est une roue sans fin, ça mène nulle part, quoi. Surtout quand on a des années, des 40 ans, des 95 ans de prison comme j'ai eu, ça mène nulle part, ça veut plus rien dire. Le procès, ben, je l'accepte pas, hein. 20 ans pour 3 braquages. C'est de l'abus, quoi. C'est une condamnation à mort, quoi. Et
il a pas aimé ce que dit Philippe, le maton. Il a coupé le téléphone.
On est tombé sur un président, Monsieur Bousté, qui m'a pris vraiment pour une idiote du début à la fin, qui vraiment se disait, celle-là, c'est un mouracher, d'un braqueur, d'un voyou, et puis basta, quoi.
Oui, on le sait qu'il y a des longues peines, mais ne connaissant personne dans ce milieu-là, on ne se pose pas de questions et on, effectivement, comme des milliers de gens, on ferme le livre ou on ferme la télé et la vie continue. Voilà.
Inévitablement, non seulement les peines se sont allongées, mais la durée effective de ce que les personnes vont faire en détention s'est allongée également.
Je me demande même s'il a le droit de dire une chose pareille. C'est dans le cadre d'un procès, il a le droit de balancer élimination sociale. Il faut éliminer M. Lanouel de la société. Non, mais vous vous rendez compte de la violence? Il faut éliminer M. Lanouel de la société.
La cour d'assises, c'est une machine de guerre.
Une machine à broyer.
Ah, vraiment, elle est super bien branlée. Hein. C'est ça le truc.
Mais manque de peau, moi je suis têtue et je ne lâcherai rien.
Voilà, donc ça c'est des extraits du teaser du film qui est en cours de préparation, Faites sortir l'accusé. Et donc, Philippe Lanouel, il est libérable en 2036. Voilà. Donc, ça fait 28 ans qu'il est en prison et il en a encore une petite vingtaine à faire, en tout cas. Une bonne vingtaine à faire, même. Et donc, voilà. Donc, vous pouvez retrouver le projet là, de coproduction, enfin, un appel un appel à financement pour la production de ce film sur un site qui s'appelle TousCoProd, comme ça se prononce, touscoprod.com ou .fr, je sais plus très bien, mais en tapant TousCoProd et faites sortir l'accusé, vous trouverez facilement sur internet les infos nécessaires et la possibilité d'aider au financement de ce film. On va écouter un petit peu de musique avant de repartir sur deux petites mutineries qui se sont passées en France et puis le cas d'enfants en centre de rétention administrative à Toulouse.
Namini amureba, wareba te ofe. Pita ke juya badi, wareba te ofe. Alita na ke juya di. Namarima mureba, wareba te ofe. Pita ke wari de tadi.
vous êtes bien dans Bruit de Tôle et on va continuer cette émission avec deux petites histoires de mutinerie, ça fait toujours plaisir. La première s'est déroulée mardi dernier, mardi 7 juillet, à Orléans, où une soixantaine de détenus ont souhaité protester contre le régime pénitentiaire du centre pénitentiaire d'Orléans-Saran, qu'ils jugent trop ferme. Donc les brigades des ERIS, grosso modo les CRS pour la prison, sont intervenues pour mettre fin à la rébellion. Une soixantaine de détenus en fait étaient en promenade sur deux lieux distincts du centre pénitentiaire d'Orléans, donc vers 17h30 de mardi dernier, lorsqu'un mouvement de blocus a été lancé. Les détenus ont refusé de rentrer dans leurs cellules. Selon plusieurs sources, les détenus protestent contre un régime pénitentiaire qu'ils jugent trop sévère. Ils accusent la lenteur administrative du centre et ils demandent également une amélioration des soins de santé. Alors là, cette protestation intervient un mois après une autre mutinerie du même genre dans la même prison. Et comme pour le mouvement du mois de juin, des véhicules des ERIS, donc c'est les équipes régionales d'intervention et de sécurité. Ces équipes ont été dépêchées dans l'enceinte de l'établissement vers 18h pour tenter de mettre fin à la rébellion. À l'arrivée des ERIS, la plupart des prisonniers ont regagné leurs cellules. Les équipes d'intervention et de sécurité ont mis fin au mouvement vers 6h30. Apparemment, il n'y a pas eu de témoignages de violence et pourtant il y avait une quinzaine de détenus qui ont tenu un peu plus que les autres. Et puis une autre mutinerie, c'était à la centrale de Moulins-Yzeure, qui a eu lieu le 3 juillet dernier, donc il y a une petite semaine. Dans l'après-midi, une vingtaine de détenus s'est retranchée au retour du parloir dans une aile de l'établissement, retenant durant quelques instants, mais sans violence, un surveillant qui a été vite relâché, mais l'action des détenus a nécessité à nouvelle fois l'intervention d'une équipe des ERIS venue de Lyon. La situation n'a été débloquée que vers 22h, en cause une note signée par la direction stipulant le renforcement des mesures de sécurité autour des parloirs de détenus. Donc il y a un des détenus qui avait refusé d'être fouillé au moment de rejoindre sa cellule. Il a été placé à l'isolement à la maison d'arrêt jusqu'à mardi dernier, tandis qu'un autre détenu aurait été transféré à Villefranche-sur-Saône. Mais sur place, la tension est toujours là, le mécontentement continue de se manifester de manière plutôt individuelle au sein de la centrale. Il y a notamment des grèves de la faim, et donc l'avocate d'un des détenus, quant à elle, dès lundi, compte saisir le contrôleur général des lieux de privation et de liberté. Donc pas plus d'infos, mais en tout cas ça bouge, c'est bien, ça s'organise un petit peu, c'est bien, avant l'été.
Ouais, on va encore dire que c'est à cause de la chaleur, mais non.
C'est à cause des matons et des tôles.
On va du coup enchaîner avec un communiqué de la CIMAD, donc daté du 9 juillet, et intitulé « Enfermement des enfants. La France se moque des décisions de la Cour européenne des droits de l'homme ». Ben tiens donc.
Étonnant.
C'est ça. Le 1er juillet, à 3h du matin, la police aux frontières est venue arrêter une mère accompagnée de son bébé de 2 mois et de sa fille de 3 ans dans l'hôtel où ils étaient hébergés à Perpignan. Le préfet des Pyrénées-Orientales entend mettre à exécution leur expulsion vers l'Allemagne, pays responsable selon le règlement Dublin III de leur demande d'asile. En l'absence du père au moment de l'interpellation, la mère a refusé de partir seule avec ses enfants. La mère est convoquée le jour même à 7h au commissariat. Le préfet a décidé d'éclater violemment la famille en enfermant au centre de rétention administrative de Toulouse la mère et ses deux enfants en bas âge. La Cour européenne des droits de l'homme a été saisie de la situation. Le 6 juillet, elle prenait la décision d'indiquer au gouvernement français de se conformer aux critères de l'arrêt Popov, qui a sévèrement condamné la France sur l'enfermement des enfants en rétention le 19 janvier 2012. Ce qui signifie de mettre un terme à la privation de liberté de cette mère et ses deux enfants. Le ministère de l'Intérieur préfère assumer pleinement l'enfermement de cette famille et fait le choix de passer outre la décision de la Cour européenne des droits de l'homme. Transférée au centre de rétention du Ménil-Amelot le 8 juillet, la famille a été expulsée le 9 juillet à l'aube sans père. Le jour même de l'interpellation de cette famille, la commission des lois adoptait un amendement qui légalise l'enfermement des enfants en centre de rétention administrative. Il s'agit du texte de loi relatif aux droits des étrangers en France qui sera soumis à l'Assemblée nationale le 20 juillet. Alors que la situation de cette famille démontre encore une fois les drames humains déjà produits par ces pratiques, le législateur souhaite aller plus loin et graver dans le marbre de la loi la privation de liberté des enfants en rétention. En 2014, 24 familles ont été enfermées dans les centres de rétention de métropole. Ce sont déjà 15 familles pour la première moitié de l'année 2015. Le ministre de l'Intérieur est en bonne voie pour battre son triste record. La place des enfants n'est pas derrière les barbelés d'un CRA, il est temps d'y mettre un terme de manière définitive. On aurait tendance à dire que la place n'y est pour personne,
oui.
Mais c'est vrai que bon, dans ce cas-là, il s'agit d'une famille, mais c'est vrai qu'il y a aussi un certain nombre de mineurs isolés qu'on retrouve dans les centres de rétention. On vous parlait il n'y a pas très longtemps d'une gamine de 3 ans et demi placée en zone d'attente à Roissy en rétention administrative toute seule.
Ouais.
C'était quand même déjà assez gratiné.
Ouais, donc là c'était au centre de rétention de Cornebarieux, donc qui est juste à côté de Toulouse. Vous pouvez aller faire un tour pour voir à quoi ça ressemble. Si vous n'êtes pas convaincu que ça ressemble à une prison, allez voir par vous-même, vous trouverez des éléments qui sont étrangement similaire.
C'est ça.
Et ouais, si vous voulez vous impliquer dans la lutte pour la liberté de circulation de tout le monde, il y a la CLIM qui tient aussi du coup une émission maintenant une fois par mois. Et bien ce sera la semaine prochaine à la place de Bruit de Tôle, puisque c'est tous les troisièmes je crois
que c'est ça, tous les troisièmes jeudis du mois.
Tous les troisièmes jeudis du mois sur Canal, donc à la place de Bruit de Tôle. Et puis la CLIM, vous pouvez retrouver sur ils ont un blog aussi, clim.noblogs.org, si je dis pas de bêtises. On arrive bientôt à la fin de l'émission, on va écouter un petit peu de musique et puis on se dit au revoir après, comme ça on finit à l'heure.
Et en beauté.
Et en beauté.
Now I don't, I used to.
Yeah.
Situation. Involved a young man. He was the ocean. And I was the same. He stole my heart like a thief in the my side, and I used to love him.
I used to love him,
but now I don't.
I
used to love him, but now I don't.
Crossroads, path would I choose?
Stuck and frustrated, I waited, debated
for something to happen, it just wouldn't fit in.
Thought what I wanted was something I needed.
When mama said no, then I just should have heeded.
This night I fled till the poison was gone.
And all of the past, all the sweet dawn. I used to love him.
me that life was much more than being some foolish man's wife. Showed me that love was respect and devotion, greater than planets and deeper than any ocean. See, my soul was weary, but now it's replenished. Look in his eyes.
It's one of a man who's lost treasures untold.
But my heart is gone. See, I took back my soul
and totally let my creator control
the life which was his.
The life which was his.
The life which was his.
The life which was
life.
His. The life.
Voilà, un petit Lorinil pour finir cette émission. Donc voilà, c'est l'émission Brutal qui se finit. On se retrouve tous les jeudis en direct de 19h à 20h, donc sur Canal Sud 92.2 en FM, www.canalsud.net pour tous ceux qui ne sont pas à côté de Toulouse ou qui n'ont pas de poste de radio. Vous pouvez nous écrire. Ah oui, on est en rediffusion également chaque vendredi de 17h à 18h sur la même antenne et sur le même site internet. Vous pouvez nous écrire donc en nous envoyant un mail à bruitdetaule@no-log.org, bruit avec un S de taule, taule@no-log.org, ou sinon par voie postale au 40 rue Alfred Duméril, 31400 Toulouse. J'espère que j'ai rien oublié.
Bah, je crois pas. Hein.
Bah, on...
C'était parfait.
Alors si c'est parfait, on n'a plus qu'à se dire au revoir et à dans 2 semaines.
C'est ça, puisque la semaine prochaine, c'est la clim.
Voilà. Allez, bonne soirée à toutes et à tous. Courage à ceux et celles qui sont à l'intérieur.
Ouais, surtout par ces temps de chaleur, on sait que c'est difficilement supportable quand on est enfermé.
Voilà. Et feu aux prisons. Voilà. Allez, bonne soirée.
Il fait déjà chaud, on l'a dit.
La liberté, c'est toute l'existence. Mais les humains ont créé les prisons, les règlements, les lois, les convenances, les ateliers, les bureaux, les maisons. Et les raisons, alors disons, mon vieux copain, la vie est belle. Quand on connaît la liberté, n'attendons plus, partons vers elle. L'air pur est bon pour la santé, partout, si l'on en croit l'histoire, partout. On peut rire et chanter, partout, on peut aimer et boire. À nous la liberté, à nous la liberté. Pourquoi faut-il se compliquer la vie pour de l'argent, se faire des cheveux, alors qu'on peut vivre à sa fantaisie? Quand on est libre, on fait tout ce qu'on veut, on est heureux selon ses voeux. Mon copain, la vie est douce, vivons ce que vivent les fleurs, ne pas en foutre une secousse.
C'est là le secret du bonheur partout. Si l'on en croit l'histoire partout, on peut rire et chanter partout, on peut aimer et boire. À nous la liberté, à nous la liberté. Il ne faut pas songer au mariage quand on est fait pour courir les chemins en attendant d'être assagi par l'âge. Contentons-nous d'amour sans lendemain. C'est le destin, mon vieux copain. Mon vieux copain, la terre est ronde. Les femmes vont de tous côtés quand on sera au bout du monde. Il sera temps de s'arrêter partout, si l'on en croit l'histoire partout. On peut rire et chanter partout, on peut aimer et boire. À nous la liberté, à nous la liberté.
Ouais.